Je ne pouvais comprendre l'extermination d'un groupe, d'un peuple, d'une nation, que si vous la rapportez aux conditions de vie que s'estime ou se donne le peuple exterminateur. Et ça, je crois que c'est une remarque très profonde sur la nature moderne des holocaustes. À savoir, les groupes, les peuples exterminés sont assimilés à des microbes, à des agents infectieux qui menacent la vie du peuple exterminateur. En d'autres termes, c'est au nom d'un vitalisme pervers, d'un vitalisme proprement dément, prenez l'extermination des Juifs par Hitler. L'extermination des Juifs, elle se fait au nom. Le Juif assimilé à un agent pathologique, pathogène, qui menace la santé de la pure nation allemande. De quoi Hitler se réclame-t-il ? De la vie et de l'espace vital. C'est au nom de la vie, dans une espèce de vitalisme de la race, une espèce de vitalisme tordu, que Hitler procède à l'élimination des homosexuels, à l'élimination dénoncée alors comme agent bactérien. Les armes atomiques posent à la fois la question de l'élimination des peuples entiers qui seront considérés comme les agents infectieux de la vie des peuples qui servent l'arme atomique, tout en même temps condition de la survie, le thème de la vie et de la survie. La survie de la race allemande est le thème fondamental de Hitler et tous les thèmes de l'Holocauste, d'armement atomique, je prends deux rubriques très différentes, se comprennent complètement en fonction de cette nouvelle conception de la politique, gestion et contrôle de la vie. Oui. La colonisation des Amériques, la colonisation des Amériques, je ne peux pas vous répondre, il faudrait que j'y pense, je ne sais pas. Pour que vous posiez la question, il faut que vous ayez déjà l'idée d'une réponse. Alors dites-moi votre réponse. Est-ce qu'il y avait déjà un argument d'espace vital ? Ah, écoutez, ça m'étonnerait. Ce faut s'entendre, à ce moment-là, vous me diriez, dans les colonies de peuplement de la Grèce ancienne, est-ce qu'il y avait déjà un espace vital ? Je vous dirais certainement pas, bien que... Il fallait qu'ils exportent de la population, il fallait qu'ils exportent des citoyens, mais c'était absolument pas au nom d'un espace vital. L'idée d'espace vital, elle apparaît tellement au 19e siècle. Je ne peux pas vous répondre, mais c'est l'exemple excellent, ça, d'une recherche. C'est celui qui pose la question qui doit y répondre. Hein. La semaine prochaine, vous allez réfléchir à ça, puis la semaine prochaine, vous nous direz. Hein. Alors, je voudrais vous lire, pour terminer ce point, la page de Foucault, là, qui paraît très belle, c'est « Volonté de savoir », page 179-180. Vous voyez, j'essaie de résumer le thème de la page, ça revient à dire que c'est pour les mêmes raisons que la peine de mort individuelle tend à s'abolir dans les sociétés modernes et que les holocaustes de peuple tendent à se développer. L'Occident a connu depuis l'âge classique une très profonde transformation de ses mécanismes de pouvoir. Le prélèvement tend à ne plus être la forme majeure, mais une pièce seulement parmi d'autres qui ont des fonctions d'incitation, de renforcement, etc. Le prélèvement, il existe par exemple au niveau des impôts. Mais la vraie forme du pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir destiné à produire des forces, à les faire croître et à les ordonner, plutôt que vouer à les barrer, à les faire plier ou à les détruire. Le droit de mort tendra dès lors à se déplacer, ou du moins à prendre appui sur les exigences d'un pouvoir qui gère d'abord la vie et à s'ordonner à ce qu'elle réclame. Cette mort, qui se fondait sur le droit du souverain de se défendre ou de demander qu'on le défende, va apparaître maintenant comme le simple envers du droit pour le corps social d'assurer sa vie, de la maintenir ou de la développer. Jamais les guerres n'ont été plus sanglantes pourtant que depuis le 19e siècle, et même toute proportion gardée, jamais les régimes n'avaient jusque-là pratiqué sur leur propre population de pareils holocaustes. Mais ce formidable pouvoir de mort, et c'est peut-être ce qui lui donne une part de sa force et du cynisme avec lequel il a repoussé si loin ses propres limites, se donne maintenant, donc ce formidable pouvoir de mort, se donne maintenant comme le complémentaire d'un pouvoir qui s'exerce positivement sur la vie. Ce n'était pas le cas de la mort décidée par le souverain. Donc, comme le complémentaire d'un pouvoir qui s'exerce positivement sur la vie, qui entreprend de la gérer, de la majorer, de la multiplier, d'exercer sur elle des contrôles précis et des régulations d'ensemble. Les guerres ne se font plus au nom du souverain qu'il faut défendre. Elles se font au nom de l'existence de tous. On dresse des populations entières à s'entretuer réciproquement au nom de la nécessité pour elles de vivre. Les massacres sont devenus vitaux. C'est comme gestionnaire de la vie et de la survie, des corps et de la race, que tant de régimes ont pu mener tant de guerres en faisant tuer tant d'hommes. Et par un retournement qui permet de boucler le cercle, plus la technologie des guerres les a fait virer à la destruction exhaustive, plus en effet la décision qui les ouvre et celle qui vient les clore s'ordonne à la question nue de la survie. La situation atomique est aujourd'hui au point d'aboutissement de ce processus. Le pouvoir d'exposer une population à une mort générale est l'envers du pouvoir de garantir à une autre son maintien dans l'existence. Le principe « pouvoir tuer pour pouvoir vivre » qui soutenait la tactique des combats est devenu maintenant principe de stratégie entre États. Mais l'existence en question n'est plus celle juridique de la souveraineté, c'est celle biologique de la population. Si le génocide est bien le rêve des pouvoirs modernes, ce n'est pas par un retour aujourd'hui du vieux droit de tuer. C'est parce que le pouvoir se situe et s'exerce au niveau de la vie, de l'espèce, de la race et des phénomènes massifs de population. J'aurais pu prendre à un autre niveau l'exemple de la peste de mort. Elle a été longtemps avec la guerre l'autre forme du droit de glaive. Elle constituait la réponse du souverain à qui attaquait sa volonté, sa loi, sa personne. Ceux qui meurent sur l'échafaud sont devenus de plus en plus rares, à l'inverse de ceux qui meurent dans les guerres. Mais c'est pour les mêmes raisons que ceux-ci, ceux qui meurent dans les guerres, sont devenus plus nombreux, et ceux-là, ceux qui meurent sur l'échafaud, sont devenus plus rares. C'est pour les mêmes raisons que la peine de mort s'abolit et que l'Holocauste se répand. Dès lors que le pouvoir s'est donné pour fonction de gérer la vie, ce n'est pas la naissance de sentiments humanitaires, c'est la raison d'être du pouvoir et la logique de son exercice qui ont rendu de plus en plus difficile l'application de la peine de mort. Comment un pouvoir peut-il exercer dans la mise à mort ses plus hautes prérogatives, si son rôle majeur est d'assurer, de soutenir, de renforcer, de multiplier la vie et de la mettre en ordre? Pour un tel pouvoir, l'exécution capitale est à la fois la limite, le scandale et la contradiction. Tandis que l'Holocauste l'est pas, puisque l'Holocauste, c'est la condition de la survie du peuple exterminateur. Or, tout ceci, je voudrais conclure, parce que vous n'en pouvez plus, tout ceci, je conclue, j'ai fini avec le premier point, en quel sens tout est toujours dit. En quel sens les énoncés sont pas cachés, les énoncés sont pas secrets, les visibilités ne sont pas cachées. Vous pouvez voir et vous pouvez entendre à votre époque tout ce qu'il y a lieu de voir et tout ce qu'il y a lieu d'entendre. Perdez l'idée que les hommes politiques vous trompent. C'est pire. C'est bien pire. S'ils faisaient que nous trompent. Mais même au niveau des holocaustes, il y a les cachements. Vous les cachements. Vous voyez, il suffit, évidemment, on sentait tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut lire alors pour connaître ces pseudo-secrets? Tantôt, tantôt. Tout est bon. Et ce sera la méthode de Foucault. C'est qu'il faut lire parfois des revues médicales pour voir ce que c'est que la politique de la santé aujourd'hui. Vous lirez dans les revues médicales des déclarations qui, personnellement, me font frémir. Du type, nous allons vers une médecine sans médecin ni malade. On voit très bien ce que ça veut dire. Une maladie se définit plus par des symptômes, elle se définit par des images. Du type scanner, etc. C'est-à-dire, vous serez traité avant d'être malade. Vous n'aurez même pas le temps de devenir malade. C'est-à-dire une médecine par image au lieu d'être une médecine par signe. Très intéressant ça. On ne peut pas dire qu'ils le cachent, ils le disent. Une médecine sans médecin n'est malade. En effet, tout se passe entre l'image et le porteur d'image, avec l'appareil de détection. D'une certaine manière, ça fait froid dans le dos, mais c'est dit. Qu'on ne nous dise pas que c'est caché. Vous direz, c'est dit, mais dans des revues spécialisées. Et alors, les revues spécialisées ne sont pas secrètes. Ce qui fait partie de l'énoncé, c'est peut-être le locuteur et le destinataire. Ça, oui. Mais qu'un énoncé implique tel locuteur et s'adresse à tel destinataire, est-ce que ça veut dire qu'il est secret? Non, ça ne veut pas dire qu'il est secret. Pas du tout. On verra cette dernière remarque que je fais, elle va lancer sans doute notre analyse prochaine. De même, lire des revues des armées, c'est très très intéressant, parce que là, alors, il ne nous cache rien, on ne peut pas dire qu'un général soit menteur. Là, il n'y a rien de plus franc qu'un général. Là, c'est une loi des énoncés, même de tous, entre l'homme politique, le diplomate, le général, c'est le plus franc. Le plus terrifiant aussi, mais c'est le plus loyal. Un général ne ment pas, il ne ment jamais. Très intéressant, il y a plus l'étude militaire, là aussi, il y a des locuteurs et des destinataires. Et ben voilà, bien. C'est en ce sens, donc, voilà, le thème, si vous voulez, tout ce que je voulais dire, c'est à ce niveau, le thème que Foucault rappelle constamment. C'est une règle de sa méthode. Le difficile, c'est de trouver les énoncés là où ils sont, mais ils sont quelque part, à vous de les trouver. Ils ne sont pas cachés. Et l'archive, ça veut dire ça. Former le corpus, comme dit Foucault, mais l'emploi un terme très souvent employé par le linguiste, ou du moins par certains linguistes, former le corpus d'énoncés qui sont caractéristiques d'une formation historique, ça implique déjà beaucoup d'invention. Il faut les trouver là où ils sont. Les trouver là où ils sont, ça veut dire à la fois ils ne sont pas cachés, et pourtant, ça prend de la peine de les trouver. Il faut que vous construisiez le corpus d'énoncés dans vos trains. Lorsque vous faites une recherche quelconque sur une formation historique, il faut que vous construisiez votre corpus. Voilà, donc on passera à l'autre problème, mais alors, ils ne sont pas cachés, mais ils ne sont pas donnés non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi ils ne sont pas donnés? Voilà.